Conférence de fin d'année à Fountain Valley, message 10, deuxième épître de Pierre. Que le Seigneur continue de nous parler par l'Esprit lui-même au travers de beaucoup de frères. Ainsi, tous les frères doivent exercer leur foi pour parler par l'esprit de foi. Cette foi qui nous est donnée par le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens, nous avons tous reçu le même esprit de foi. Nous croyons ainsi. Nous parlons. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'on dise juste n'importe quoi qu'on croit. Mais ça doit être par rapport à la parole du Seigneur. Ça doit être en accord avec la parole. On doit réaliser que la parole mélangée à la foi, c'est vraiment un exercice de mélanger avec la parole vivante de Dieu. Et le meilleur moyen de le faire, c'est pas juste de croire, mais c'est de prier. Ça signifie, Paul a écrit par beaucoup de prières. Par beaucoup de prières. Comment va-t-on pratiquement mélanger la parole de Dieu avec la foi si on ne prie pas? Je crois que l'expérience de beaucoup de frères qui cherchent le Seigneur, c'est que à chaque fois que tu lis la parole et le Seigneur te parle, ne dis pas juste « Amen » et tu t'en vas. Mais tu veux entrer dans cette parole, passer du temps dans la présence du Seigneur en priant à ce sujet. Alors, l'Esprit va marcher avec chacun de nous. Il n'y a pas d'autre moyen de mélanger l'esprit à la foi. Dans les premières années où j'ai entendu cela, en entendant la parole, elle a touché mon cœur. Et ainsi, j'ai passé du temps à prier. J'ai passé du temps à examiner ce que j'avais entendu. Sans l'expérience, c'est juste des enseignements et des doctrines. Je veux pas juste des bons enseignements. Je veux la réalité vivante. Comme il y a de nombreuses années, quand j'ai réalisé, j'ai un esprit. Mais après avoir réalisé, ok, j'en ai un, je me suis vraiment demandé, ok, mais en fait, comment ça marche? Je veux l'expérimenter. Je veux expérimenter cet esprit qui vit dans mon esprit. C'est des versets dans la parole, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que j'expérimente cela? Seigneur, accorde-moi des expériences quotidiennes. Louis le Seigneur, il m'a donné beaucoup d'expériences. Et on doit continuer dans cela. C'est vraiment important. Donc, dans 2 Pierre 1, il commence avec le fait qu'on a reçu la même foi précieuse. On pourrait croire, ouais non mais la foi de Paul, c'est un tel apôtre, elle était plus grande que celle que le Seigneur m'a donnée à moi. Est-ce que tu penses ainsi? Alors ça voudrait dire que le Seigneur n'est pas juste. Il a juste sa foi à nous donner, la foi de Dieu. Mais on doit apprendre à appliquer cette foi. L'appliquer dans la parole, dans notre vie quotidienne. Parce que le Seigneur nous a donné tellement de choses, comme dit Pierre. Tout ce qui est contribué à la vie et à la piété. Mais si on ne l'applique pas, si on ne l'expérimente pas, par cette foi précieuse, elle est très très précieuse, notre foi. Comme le frère l'a mentionné dans Hébreux 12, c'est par la foi que nous amenons en substance toute chose et que nous espérons gagner. La seule manière de le faire. Amen. C'est de les mettre en pratique par la foi. N'importe qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui croient, qui viennent à lui. Tu peux pas juste prendre ce verset de Pierre et dire on marche par la foi. Chaque pas de notre vie chrétienne est un acte de foi. Certaines choses qu'on peut avoir tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. Comme on l'a lu ce matin, ça doit grandir. Quand on plante une semence, tu n'as pas directement un fruit le lendemain matin. Comme dans un conte où il a semé un pois magique, je crois, et puis le lendemain, il avait déjà poussé et il touchait le ciel. Ça ne marche pas ainsi. C'est pourquoi c'est par la vie et la piété. C'est pas juste ce qu'on fait pour Dieu, mais c'est comment on vit. C'est pourquoi Pierre parle de la manière, de la sorte de personne que nous devons être. C'est pas ce que je fais pour Dieu juste. Combien de conférences je suis, combien de messages je donne. Cette personne a tort si elle croit cela. C'est en toute sainteté et piété. Sinon, on peut avoir beaucoup d'œuvres. La chrétienté est une religion remplie d'œuvres. Et tout est mesuré par des œuvres. D'où nous venons, la doctrine était que nous ne sommes pas pour des œuvres. C'était une doctrine. Mais la réalité, c'est qu'il poussait tout le monde à avoir des œuvres. Et quel est le résultat final? C'est que c'était tellement fort de faire des œuvres. C'est devenu une organisation, une œuvre, où il envoyait même des groupes de personnes dans le monde, partout. On connaît le catholicisme et tellement d'autres groupes. Leur but, c'est de faire des œuvres. Mais Dieu ne veut pas juste qu'on fasse des œuvres. Certaines personnes ont demandé au Seigneur Jésus, quelles œuvres devrions-nous faire pour Dieu? Nous voulons faire les œuvres de Dieu. Donc, que devrions-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'il a répondu, le Seigneur? Crois. Pour vous, les œuvres de Dieu, c'est de croire en moi. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Si vous ne croyez pas et que vous faites beaucoup d'œuvres, c'est pas croire. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord de croire en celui qui l'a envoyé. Comment peux-tu faire des œuvres si tu ne crois pas déjà que le Seigneur leur a dit que je suis celui que Dieu a envoyé? Comment pouvez-vous faire des œuvres? La foi est très importante. C'est pourquoi il parle d'une foi précieuse. Elle est très précieuse. C'est la clé dans notre marche chrétienne, dans la vie de l'Église. C'est cette foi qui nous amène dans l'expérience. Sinon, on n'a aucun accès. Notre désir doit être, Seigneur, peu importe ce que tu as dit dans ta parole, je veux l'expérimenter. Il y a tellement de promesses. Il y a tellement de belles promesses dans les cinq premiers livres dans le Pentateuque et quand on est passé au travers de tout Lévitique. On fait partie de ces cinq livres de Moïse. Et ça nous a amené par les psaumes. Là, il parle de quand il était encore en Europe. Pour passer sur tous les psaumes, il nous a fallu environ 5 ans. Ne croyez pas que dans les psaumes, il n'y a pas des promesses de Dieu. Il y en a tellement. Elles sont innombrables, ces promesses dans les psaumes. Nous sommes passés au travers de certains des prophètes, pas tous, mais certains, parce que la parole est si précieuse. Et quand on passe au travers de ça, on voit. Seigneur, combien de promesses magnifiques nous as-tu données, qui sont si précieuses, qui sont tellement grandes. Sans la foi, ce n'est pas possible. Le but final, c'est d'avoir une riche entrée dans le sanctuaire. Le but, c'est le royaume qui vient. Grincer des dents et pleurer en étant dans les ténèbres du dehors. Vous préférez être grillé dans le feu, en pièces. Vous préférez ça? Vous préférez profiter du royaume? On doit passer au travers des Écritures pour trouver le grand jugement qui est promis par Dieu. Pour ceux qui ne veulent pas y prêter attention, ça ne signifie pas que Dieu veuille qu'on soit tellement nerveux, nous chrétiens, à ce sujet. Mais Dieu veut qu'on ait cette crainte respectueuse. Parce que le monde est tellement plein de corruption. Les erreurs des méchants. C'est Satan lui-même. Il est le méchant. Délivre-nous du méchant. Matthieu 13. La semence qui est semée dans ton cœur, le méchant va venir la voler. En fait, Satan lui-même est appelé le méchant. On ne réalise pas ça. Mais comme certains frères l'ont déjà mentionné, ce monde est rempli de corruption. Et c'est vraiment un piège. Et pour prendre part à la nature divine, on doit échapper. Donc là, pourquoi il emploie le mot échapper? Parce que c'est vraiment un piège. Ça peut vraiment nous détruire. Est-ce que tu as pour but de devenir billionnaire? Est-ce que tu sais tout ce qui se passe pour ces millionnaires à la fin, comme Bill Gates? Je l'appelle Bill Gates des enfers. Gate en anglais, c'est la porte. Portail. À la fin, que se passe-t-il? Il y a juste de la distraction. Regardez toutes ces personnes, les pouvoirs. À la fin, il y a juste la distraction. Tout peut sembler bien au début, mais à la fin, on peut finir piégé. Ça, c'est l'ennemi. Regarde, Hollywood. Est-ce que tu n'aimes pas Hollywood? Vraiment? Regarde la rue des stars. Tu vois pas la corruption cachée derrière? Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent dans cette industrie, ils ont été complètement piégés. Ils ne peuvent plus en sortir. Une fois, j'ai vu quelqu'un aller dans une de leurs grandes réunions, pour ainsi dire. Et ce qu'ils y faisaient était effrayant. Pas censé être connu pour les gens de l'extérieur, mais une personne a pu y entrer et prendre des vidéos. Et ce qui s'y passait est vraiment effrayant. Tu peux y être connu en une nuit. Tu peux t'acheter une maison qui coûte 10 millions de dollars. Est-ce que Satan n'a pas dit au Seigneur, je te donnerai toute la gloire du monde si tu te prosternes devant moi? Le Seigneur lui a répondu, non, je ne peux adorer que Dieu. Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Toutes ces choses, elles peuvent nous paraître merveilleuses au départ. Mais alors, après, tu dois payer un prix pour cela. Et tu es piégé par l'ennemi, par le méchant. Ça signifie pas qu'on doit être des personnes qui restent juste à la maison, on fait rien et on prie. Mais le Seigneur nous montre, soyez prudents. Nous, on a tendance à oublier qu'il y a un méchant. On ne voit pas ces choses avec nos yeux. Mais ces choses sont vraiment actives. On peut vraiment discerner et voir ce qui se passe dans ces choses cachées. Que le Seigneur ouvre nos yeux. C'est pourquoi Pierre nous dit, si vous n'avez pas cette manière de vivre et de croître, je suis content qu'on ait un optométriste ici, pas juste pour la vision spirituelle, physique, mais aussi pour la vision spirituelle, c'est important. Si on ne voit pas la réalité spirituelle, alors on est vite piégé. Et une fois piégé, c'est tellement dur de sortir. En particulier, ces personnes qui ont voulu cette gloire, une fois que tu es pris dedans, celui qui t'a donné cette gloire, il ne te laisse plus la liberté de ressortir. Tu entres et il te paye avec des choses, mais après tu ne peux plus en sortir. Le but, c'est que nous ayons une libre entrée devant le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre une vie normale. On doit vivre une vie normale. Ouais. Comme le Seigneur a prié, Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde. Où voudrais-tu vivre? Sur la Lune? Il n'y a rien là-bas. Sur Mars? Non. Ça signifie on vit une vie normale. Le Seigneur a préparé cela. Une vie normale, magnifique. Sinon, il faudrait sortir de ce monde. Mais le Seigneur va pourvoir chaque chose. Amen. Apprends à être satisfait. Et cette magnifique étape de croissance, c'est 7 mots. Juste 7 mots. Ne crois pas en lisant 2 Pierre qu'il est juste un pêcheur de poissons. Il nous a donné toutes les étapes pour croître. Le Seigneur lui a donné la sagesse d'en haut. Seigneur lui a donné l'amour fraternel et l'amour lui a montré cette croissance-là. Si tu n'as pas l'amour fraternel, alors c'est impossible d'avoir l'Église. À la fin, il y aura juste division sur division. Tellement de problèmes. Mais l'amour est le seul moyen de bâtir Sion. Sans amour, il n'y a aucune vie de l'Église. Le corps s'édifie lui-même dans les œuvres. Non, dans l'amour. Comme une vie de famille. Sans beaucoup d'amour, ça ne marche pas. L'amour fraternel est très élevé. C'est presque le but. On est proche du but. Et en dernier, l'amour. Parce que Dieu est amour. Sans amour, c'est pas possible. C'est vraiment facile. Pierre, il l'a vraiment rendu très simple pour nous. C'est ce qu'il nous dit au chapitre 1. Et ensuite, parce qu'il aime les saints, souvenez-vous, il les appelle bien-aimés. Dans tout ce qu'il a écrit, il appelle les saints, les bien-aimés. Et même Paul, il l'appelle notre frère, notre bien-aimé frère Paul. Si j'étais Pierre, je me serais souvenu, oula, il m'a vraiment exposé face aux païens. Je vais pas vraiment l'appeler bien-aimé. Je vais juste l'appeler frère Paul. C'est incroyable. Il l'appelle frère bien-aimé. Ça signifie que ses frères, ils s'aimaient vraiment. Si nous aimons les uns les autres, alors nous allons dire aussi la vérité. Dire la vérité dans l'amour. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 4, en disant la vérité dans l'amour. Si on n'a pas l'amour, ne parlons pas si vite. Attends que l'amour fraternel croisse un peu et à ce moment-là, tu vas pouvoir parler à ta femme. Sans cet amour, hors de cet amour. Pierre répète encore et encore combien de versets est-ce qu'il a employés pour nous rappeler. C'est parce qu'il nous aime. Il avertit. C'est de son amour pour les saints qu'il avertit, qui leur rappelle ces choses. Ne crois pas que tu n'aies pas besoin d'être rappelé. Il dit, je vous rappellerai, même que vous sachiez déjà la vérité. Si tu sais déjà la vérité, j'ai pas besoin de te la rappeler, non? Bon, j'ai rien besoin de lui dire, il connaît déjà la vérité. Non, alors là, c'est pas l'amour. Si j'agis ainsi, alors ça veut dire que j'aime pas Vince. Ça dépend de lui. Je ne suis pas toi. Tu décides ce que tu as envie de faire. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, Aaron, si ton père t'aime, alors il va te rappeler des choses. Tu vas lui dire, oui, c'est bon, papa, je les ai déjà entendues une centaine de fois, ces choses. Mais à cause de l'amour, tes paroles vont te rappeler encore et encore. Stéphane, est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Et le rappel est très important. En particulier, ce qu'il dit. Au sujet de la parole. La parole est très importante. Et de la prendre dans nos cœurs. Parce que si on n'aime pas la parole, on va juste la faire parce qu'on doit. Si tes parents disent, ah, 9h du matin, vas-y, lis la Bible. Et là, tu dis, bon, ok, je dois lire la parole. Ah, c'est bon, j'ai fait. C'est fait. Mais après, que ce soit fait, c'est fait. C'est pas dans ton cœur. Mais si tu aimes Dieu, quiconque aime Dieu doit aussi aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est si importante. Amen. Garde cela jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Jusqu'à ce que l'étoile du matin vienne. jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La plupart des traductions disent jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Elle va pas se lever dans ton cœur quand le Seigneur revient, mais tu dois y prêter attention en lisant la parole. Et ne la lis pas selon tes propres concepts. Amen. Seigneur, que veux-tu me dire? Quel est ton fardeau? Je ne veux pas entendre ça d'après mes propres concepts. Et il l'a écrit à la fin du chapitre 1 pour nous avertir au sujet des faux prophètes. C'est beaucoup de leurs propres concepts. Ils ont tordu la parole de Dieu. Au lieu que nous demandions au Seigneur pour sa lumière, sa révélation, afin que nous connaissions la véritable signification, alors on va étudier, penser, essayer d'interpréter. C'est pourquoi Pierre ne dit aucune interprétation personnelle. Frère, ne partagez pas une interprétation particulière, mais demandez au Saint-Esprit. J'étais dans une réunion une fois et une famille a été baptisée. Et immédiatement après le baptême, un frère est arrivé avec une pile de livres et a dit au frère, lis ça. J'ai regardé à ce frère et les livres, et je lui ai dit, s'il te plaît, frère, ramène ça à la maison. Et j'ai dit au frère qui venait d'être baptisé, t'as besoin que d'un livre, c'est la parole. Il venait juste d'être sauvé. Il m'a dit, mais je comprends pas la Bible. Je lui ai demandé, est-ce que tu as lu? Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais alors comment sais-tu que tu ne comprends pas? Le premier verset dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que tu arrives à comprendre cette phrase? Bien sûr, tu arrives à comprendre. J'ai dit peut-être que tu ne comprendras pas tout dans la parole. Mais t'inquiète pas, Dieu. Amen, t'a donné l'onction. Et il va t'enseigner toutes choses. J'ai dit, mais tu as le meilleur professeur céleste que Dieu t'a donné. Apprends à l'écouter. Prie à lui. Et si tu ne comprends pas, tu poses la question. Et tous ces livres ont disparu. Oui, Seigneur. Je ne dis pas que ces livres ne vont aider personne, mais le premier livre que tu as besoin de lire, c'est la parole de Dieu. Parce qu'aucun autre livre ne peut remplacer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle le livre, la Bible. Bible veut dire le livre. Est-ce que tu veux lire le livre? Sinon, tu vas écouter beaucoup de faux prophètes et de faux enseignements. Et ils vont faire une marchandise de toi. Et chaque dimanche, tu vas devoir leur donner ton argent. Tu vas devoir t'inscrire, payer une taxe. Non, t'as pas besoin de cela. La parole, elle est gratuite. C'est la parole vivante de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pas pour la doctrine. C'est pas pour la doctrine. Si on est juste pour la doctrine, alors on va se battre les uns les autres. On va se condamner les uns les autres. Parce que tu vas pas marcher par rapport à ce que je vois de la parole. Et tout de suite, il va y avoir des condamnations, des divisions. Ensuite, le Seigneur nous avertit. Parce qu'il y a un ennemi. Et le frère avait raison. On a besoin de savoir qu'on a un ennemi. Et un ennemi terrible. C'est un menteur. Un meurtrier depuis le début. C'est celui qui fait chuter le monde entier. C'est le méchant. Il est diabolique. Et son but principal, c'est de détruire l'Église. De nous détruire. C'est pourquoi le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit ça parce que directement, Dieu a dû dire ça parce que Satan veut d'abord s'attaquer à l'Église. Et on le voit parce que directement, Satan a utilisé Pierre. Et le Seigneur a dû lui dire, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous pouvez vraiment lire dans ces chapitres. Ne croyez pas, c'est pas important. Sinon, Pierre n'utiliserait pas un chapitre entier pour parler de ça, du jugement sérieux. Et si nous sommes la cible, nous, chrétiens, nous sommes la cible. Si on regarde toute la situation du monde aujourd'hui, il y a toutes sortes de dénominations, toutes sortes de théologies, toutes sortes de courants. Pourquoi penses-tu que les chrétiens ne croient pas qu'ils ont besoin d'une préparation ? Parce que les faux prophètes t'enseignent que, oh, si t'es sauvé, c'est bon. T'es sauvé de tous tes péchés. Oh, t'es lavé. Mais c'est bon, tu vas aller aux cieux. Si tu es vraiment sauvé, si tu es vraiment un enfant de Dieu, alors tu reçois le Saint-Esprit. Alors, immédiatement, tu vas être qualifié pour être pris, enlevé. Et ça va être une grosse surprise quand le Seigneur vient. Ça va venir pour le monde entier. Quel est ton gain comparé à ce que leur gain est? Ils ont eu une position, un pouvoir. Ils font de toi une marchandise. Ils sont très astucieux. Tu dois être astucieux pour pouvoir me tromper. Mais leur jugement va être terrible. Ne crois pas qu'il n'y ait pas de jugement. Mais si tu tombes dans leurs astuces, alors tu vas avoir un sort qui est terrible. Je crois que ça parle tout seul. Et tu dois tenir ferme. Sinon, il y a tellement d'autres enseignements. Et tu vas tomber. Déchoir de ta fermeté. Que le Seigneur nous avertisse tous. Nous avons besoin d'avertissement. Et ensuite, le dernier chapitre, comme le prêtre a déjà partagé, il est au sujet du retour du Seigneur. Et ces trois sujets sont les aspects principaux. Le Seigneur vient. Est-ce que tu ne crois pas qu'il vient bientôt? Vraiment? Allons dans Daniel rapidement. Pour avoir une impression de Daniel, on peut aller dans Daniel 9. Et commencer au verset 24. 24, il dit, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Sur ta ville sainte, elles sont séparées en 62 plus 7. C'est quand ils sont revenus, non pas avec Zorobabel, mais c'est quand ils sont revenus. C'est le temps exact où Artaxerxès a donné l'ordre d'aller restaurer la ville de Jérusalem jusqu'au Messie, c'est-à-dire le prince. Il est au verset 25. Il y aura 7 semaines et 62 semaines. Ça veut dire que les 69 premières semaines sont coupées en 49-49. Ce qui a été exactement le temps nécessaire pour rebâtir la ville. Et à la fin de ces 62 semaines, le Seigneur est venu. En fait, il pouvait savoir à quel moment le Seigneur allait venir. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Néhémie, quand il est retourné, et Esdras et Zorobabel, quand ils sont revenus, il y avait beaucoup de problèmes, parce que l'ennemi essayait de les arrêter. Après, verset 26, après les 62 semaines, j'aimerais que vous voyez que du 24, 25, 26 jusqu'à la fin du 27, il commence à chaque fois avec ses 70 semaines. Donc 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il sera retranché, c'est très clair. Mais pas pour lui-même. Pas pour lui-même, mais pour nous. C'est pas tout. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra. Ce chef, il mentionne Titus, qui en 70, en l'an 70, est venu pour détruire la ville et le sanctuaire. Vous vous souvenez? Que le Seigneur a prophétisé qu'il ne resterait pas pierre sur pierre du temple. Et les disciples lui ont demandé quand? Et Daniel, en fait, leur avait déjà dit quand. Et sa fin arrivera comme dans une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La désolation est déterminée, dit en anglais. C'est vraiment décrit dans Luc que Jérusalem va être entièrement détruite et que Jérusalem serait sous les pieds des païens jusqu'à ce que le temps des païens soit terminé. Et en 48, la nation d'Israël a été restaurée. Et ensuite, ça veut dire que là, Ça a été ces 69 premières semaines. Le Seigneur nous dit exactement ce qui allait se passer et ça s'est passé. Donc quand on lit la parole, on voit vraiment que c'est la vérité. Ensuite, verset 27. Après une semaine. Donc, dans beaucoup de traductions, c'est mal traduit. Mais en fait, c'est « Et concernant la dernière semaine, il fera une solide alliance avec plusieurs. » Il. Ce « il » est avec nous aujourd'hui. Donc, verset 27. Dans la... Dans la traduction grecque 70, il dit concernant cette semaine, viendra cette alliance. C'est deux choses différentes. Une fois que, après que Israël ait été disséminé et disparu de la carte même, là, le Seigneur a restauré. Et une semaine, donc c'est la dernière semaine qui manque. On en a déjà 69. D'abord, avec la force. Par la force, il va faire une alliance avec plusieurs. Mais ça ne signifie pas que cette alliance va durer une semaine. Mais le signe que cette semaine vient, c'est que cet accord va être fait, cette alliance va être faite, et elle a été faite par quelqu'un qui s'appelle Monsieur T. Vous savez qui c'est. Et avec Monsieur B. On sait maintenant que les accords d'Abraham sont l'accomplissement de cela. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et en particulier ces dernières semaines, on a pu voir que cet accord d'Abraham est encore plus, il y a encore plus de propagande qui est faite à ce sujet. Est-ce que vous croyez que ça va commencer ou que ça a déjà commencé? On en parlera après. Pas juste maintenant. C'est le premier signe de la dernière semaine. Alliance avec plusieurs. Maintenant, il y a un deuxième signe de la dernière semaine. Là, il dit, il fera une solide alliance et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça signifie que le deuxième signe, c'est que durant cette semaine, durant la première moitié de cette semaine, les Juifs vont commencer leur sacrifice d'animaux à Dieu. Et pour ça, ils avaient besoin des vaches rousses. Et le 15 septembre, encore un 15 septembre de cette année, 2022. 5 vaches rousses parfaites, parce qu'elles devaient être parfaites, elles ont été envoyées en Israël. Maintenant elles y sont. Et elles ont une année. Elles doivent avoir 2 ans. Donc, du 15 septembre 2022. C'est 5 vaches rousses arrivées du Texas. Elles auront une année l'an prochain, en 2023. Ça signifie pas que 2023 sera le milieu de la semaine, mais ça signifie que par ces vaches rousses, le temple pourra être purifié parce qu'il faut la cendre de ces vaches mélangée à de l'eau pure de Jérusalem pour purifier le temple. Parce que pendant 2000 ans, Jérusalem a été bafouée sous les pieds des païens, des impies. Et il faut ces cendres pour l'eau de purification. Donc dès qu'il y aura la cendre pour pouvoir purifier le temple, alors les sacrifices pourront recommencer. Et au milieu de la 70e semaine, peu importe qui cette personne est, ce sera ce 666 qui va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Et ça va être le début de la dévastation. Tu dois considérer tout cela. Combien de temps ça va prendre pour que tout cela arrive? Je crois que si nous avons la sagesse du Seigneur et qu'on peut calculer cela, on va voir que le temps est très court, bien plus proche que nous croyons. C'est pourquoi Pierre avait un tel fardeau. Si 1000 ans est comme un jour, alors nous sommes déjà à la fin du 6e jour. Et le royaume des 1000 ans, c'est combien d'années? 1000 ans. Ce qui signifie que ça va être l'année du sabbat, le jour du sabbat, mais pendant 1000 ans. Je vous redis ces choses afin que vous soyez. Vous voyez que le temps est court. Je peux seulement vous rappeler. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous vous souvenez que le temps est vraiment court, plus court qu'on ne pense. Prenez la parole de Pierre sérieusement. Parce que tout va arriver à sa fin. Et Pierre dit, quelle sorte de personne? Vous savez, et pour être prêt, pur, irréprochable pour le jour de notre Seigneur, vous savez quoi faire. Amen, c'est le fardeau de Pierre. Et maintenant, on ne fait que confirmer que le temps est vraiment court. Le soleil se lève tous les matins. Alors pourquoi me dis-tu, le Seigneur revient bientôt? Mais là, c'est ce que dit la parole de Dieu. Souvenez-vous. Merciful, est-ce que tu te souviens? Si on doit souffrir, ça va plus être long, de toute façon. Même les souffrances dans notre corps physique. Dans tous les cas, je pense pas plus de 2 ans. Quel Seigneur! et miséricorde de chacun de nous. Seigneur, nous prions. Amen. Rends-nous sages pour être zélés chaque jour, pour racheter le temps, pour être entraînés pour notre préparation pour le royaume. Nous voulons être prêts. Seigneur, merci de nous révéler que le temps est court, plus court que nous ne l'avons jamais cru. Que tous nous nous réveillons pour te servir avec une sainte crainte. Tu as promis de venir bientôt. Nous disons Amen, viens Seigneur Jésus.